Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Le débat, le numérique et politique, le débat de ce soir est consacré à la sécurité, comment la police adopte les nouvelles technologies, et nous en débattons avec Jean-François Cesarini, député La République En Marche, et Hugo Bernalicis, député La France Insoumise. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, dans le débat, on s'intéresse donc à la police. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a annoncé des mesures pour, je cite, faire passer la police du 19e au 21e siècle. Donc on saute la case 20e siècle, on va direct au 21e, notamment en dotant les policiers de nouveaux outils. 110 000 tablettes et smartphones dits Néo pour nouvel équipement opérationnel vont être répartis entre la police et la gendarmerie. Et on annonce aussi le lancement, si on peut dire, de 10 000 caméras piétons, c'est leur nom, caméras piétons. Piétons qui vont être fournis, elles seront portées par les agents qui pourront les activer lorsqu'ils en ressentent le besoin. Comment tout ça va fonctionner, quelles sont les limites de ces projets, c'est de tout cela dont nous parlons ce soir. On peut peut-être commencer avec vous, Hugo Bernalicis.
Je pense que il y a clairement un retard qui a été pris dans l'administration en général et plus particulièrement dans la police et dans la justice sur le numérique. Enfin, moi qui suis allé en commissariat à plusieurs reprises ces derniers temps pour discuter notamment de la procédure pénale et de son évolution, puisque ça va être un des thèmes dont on va discuter à l'Assemblée nationale. Le premier élément, c'est non, mais le logiciel sur lequel on est là,
il est vieux, il marche pas.
Il est même pas vieux. Il y a des mises à jour toutes régulières, quoi. Mais il fonctionne pas. On est obligé de remettre en place la mise en forme, de refaire des copier-coller sur le traitement de texte, de le remettre dans le logiciel. Enfin, des trucs qui semblent hallucinants en 2018 où en quelques clics, on est en capacité de faire des choses efficaces d'un point de vue personnel à son domicile, quoi. Donc moi, ça me fait sourire quand on dit qu'on va mettre les moyens sur le numérique, alors que, en réalité, comme si on était d'un autre âge et que les agents ne voulaient pas progresser, alors qu'en réalité, ils en sont demandeurs. Et tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des outils qui fonctionnent. C'est ça l'enjeu. Et sur les 110 000 tablettes, par exemple, moi, je dis très bien, ça serait encore mieux si elles arrivaient d'autant plus vite. Mais pourquoi 110 000 alors qu'il y a plus de 170 000 agents de police?
Donc il y en a 60 000 qui n'en auront pas, quoi.
Et si on prend les gendarmes, ça fait 250 000 personnels, plus les personnels administratifs, etc. Bon, et on fait quoi de tous les gens qui n'auront pas de tablette? Pourquoi il y en a qui auront des tablettes, d'autres pas de tablettes? Enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Encore une fois, en réalité, c'est la contrainte budgétaire qui vient dicter les objectifs.
Une première réaction peut-être sur ça, Jean-François Cesarini, député de La République En Marche.
Non, effectivement, je pense que c'est très important. Je suis ravi d'entendre que la France Insoumise veut plus de numérique encore et toujours plus.
Et plus de policiers.
Et plus de policiers, donc je trouve ça formidable.
C'est effectivement, 10 000, c'était dans
là,
le
on
programme,
passe effectivement ouais. du 19e siècle au 21e siècle aussi, donc j'en suis très très heureux. Néanmoins, parlons effectivement de cette caméra piéton. Aujourd'hui, le numérique, ça permet.
Alors,
quoi?
La caméra piéton, c'est une caméra que les policiers, une GoPro
eux,
qu'ils auraient sur eux.
Sur eux, qu'ils peuvent activer quand ils l'activent. Donc, on voit 30 secondes avant l'activation, ce qui est intéressant. S'ils ne l'activent pas, ils peuvent être quand même un peu suspects de ne pas l'avoir activé.
Oui, s'il y a des troubles et qu'elle n'est pas en marche.
Savoir qui provoque qui. Savoir que la personne aussi qui est filmée se voit sur l'écran en direct, ça peut aussi dissuader quand on se voit, il y a quelque chose qui se passe. Il n'a pas accès aux images qu'il filme après, c'est stocké. C'est évidemment transmis directement et ça évite toute cette paperasse-là. L'idée effectivement du numérique, c'est quoi? Mutualiser, aller plus vite, faire gagner du temps dans tout ce qui est répétitif et ennuyeux pour que les agents ils soient où? Bah, sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, avec le même temps de travail, on peut être plus sur le terrain que dans des bureaux, parce que quand on auditionne quelqu'un, quand on l'a vu, alors il faut taper des papiers. Là, pour le coup, le numérique permet d'aller plus vite.
Hugo Bernalicis, est-ce que ça fait gagner du temps pour chaque contrôle, par exemple, car les agents n'ont plus de besoin de contacter une centrale qui leur donne les informations sur un individu ou un véhicule? Est-ce que c'est pas, de notre côté, peut-être un gadget ou un moyen de compenser la non-augmentation des effectifs de police?
Bah, disons que c'est un gain de temps qui est appréciable pour la personne qui fait son contrôle. Moi, j'en ai discuté avec des gendarmes parce que les gendarmes ont été un peu précurseurs en la matière, l'utilisent déjà depuis 2 ans en expérimentation. C'est un gain de temps appréciable. Après, tout ce qui est de la procédure pénale en tant que telle, ça vous fera pas gagner plus de temps, vous y échapperez pas de toute façon. Et c'est pas le problème n'est pas tant la durée qu'on met pour faire un contrôle d'identité. En réalité, c'est l'accumulation de contrôles d'identité, si on parle de ça par exemple. C'est le fait qu'il y ait des personnes qui se fassent contrôler 6-7 fois dans la même journée ou dans la même semaine, ce qui est plus appréciable que dans la même journée. Et du coup, comment on fait pour lutter contre ça? Alors, est-ce que globalement les caméras piétons, ça va permettre d'avoir du temps d'agents disponibles supplémentaires sur la voie publique? peut-être un petit peu, mais ça reste marginal, effectivement. Et ce qu'il faut, c'est l'embauche. Et ce qu'il faut, c'est se dire qu'il y a un certain nombre d'activités policières qui, aujourd'hui, mériteraient d'être utilisées à autre chose. Voilà, il va y avoir un débat qui va s'ouvrir sur la question de la légalisation du cannabis, ou plutôt de sa contreventionnalisation. Moi, je suis plutôt favorable à la légalisation. Ça, ce serait un moyen, effectivement, de désemplir la charge de travail de dizaines de milliers de policiers chaque jour. Voilà, donc moi j'ai surtout l'impression, et il faut pas non plus se tromper, on embauche aujourd'hui des policiers et des gendarmes, j'ai plutôt l'impression ici qu'on essaye de faire de la communication avec 10 000 caméras piétons, encore une fois, il y en a besoin davantage, mais il y a quand même ce problème du contradictoire. C'est-à-dire que c'est quand même le policier qui décide de le déclencher, quand bien même ça enregistre 30 secondes avant.
Et pourquoi ces caméras ne filment pas sans arrêt, par exemple?
Mais parce que c'est une question de données.
Précision juste sur les effectifs. Dans le programme donc, du président de la République, il y a eu le fait de revenir aux effectifs de police avant les grosses suppressions de Sarkozy. Donc je dis juste qu'il va y avoir une augmentation aussi des effectifs. Un. Deux, quand on contrôle, évidemment, cette accusation de dire j'ai été contrôlé 10 fois dans la journée, bah là, avec les tablettes et avec les caméras, ça va être compliqué de le faire, parce qu'au moins les gens pourront prouver qu'ils ont été contrôlés de manière, j'allais dire, harcelante.
Enfin, c'est pas eux qui ont les tablettes quand même.
Non, mais en tout cas,
c'est pas eux qui ont la caméra non plus.
Oui, mais si à chaque fois qu'on contrôle quelqu'un, c'est enregistré alors qu'aujourd'hui ça ne l'est pas, on pourra voir si effectivement cette personne-là a été beaucoup plus contrôlée. Et si on contrôle la même personne en disant mais pourquoi vous n'avez pas activé cette caméra-là alors que vous l'aviez, ça devient suspect aussi. C'est ça qui est important de voir.
Donc c'est une première étape à vos yeux nécessaire.
C'est parole contre parole quand même.
Mais non, mais si
c'est pour ça que nous n'étions pas
si on n'allume pas la caméra en disant
sauf qu'il n'y a pas de parole contre parole avec un policier, ce qui est normal d'ailleurs.
Mais aujourd'hui, c'est le cas.
Oui, mais c'est bien aujourd'hui,
ce que je dis. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc la caméra permettra que ça soit un peu moins le cas.
Bah, pas forcément. S'il n'a pas déclenché, s'il a jugé que c'était pas nécessaire de déclencher la caméra pour son contrôle d'identité, il n'y aura pas de trace.
C'est pour ça que c'est suspect s'il ne l'a pas déclenché et qu'après il se plaint.
Mais de toute façon.
Et puis s'il y a un mort, on dira qu'est-ce qui s'est passé.
Non, mais ok, mais
c'est un peu étrange, quoi. On s'est engueulé pendant 20 minutes, mais vous n'avez pas eu le temps d'appuyer sur le bouton de la caméra, monsieur.
Attendez, aujourd'hui, quand quelqu'un se fait contrôler 5 ou 6 fois dans un quartier, il a beau faire un signalement sur la plateforme de l'IGPN, parce qu'il peut le faire aujourd'hui, c'est pas pour autant que derrière, il y a des suites qui sont données et que l'équipe qui est dans le quartier ce jour-là va être interrogée.
Parce qu'il y a pas de preuve. Là, il y en aura.
Oui, mais la preuve, c'est pas la personne qui s'est fait contrôler qui l'a. C'est pour ça que nous on proposait qu'il y ait quelque chose de contradictoire qui soit mis en place, qu'il y ait un bout de papier qui s'appellerait un récépissé de contrôle d'identité. Voilà un élément. Et on
mais
avait
ça,
proposé.
Vous savez que c'est très largement on refusé par les policiers eux-mêmes.
Hein. Et puis les quelques tests n'ont pas trop bien marché.
Il n'y a pas de quelques tests. On n'a pas fait de tests.
Alors, sans revenir sur ça, parce que c'est un autre sujet, est-ce qu'il y a un problème de formation, notamment à ces nouveaux outils? Je parle des tablettes et je parle de ces caméras piétons. Est-ce que les agents sont qualifiés pour les utiliser? Est-ce qu'on va juste leur donner, comme on l'a fait un peu trop souvent dans les collèges où on distribuait des ordinateurs, mais on ne savait pas trop comment les utiliser?
Exactement. En fait, la numérisation des services publics ne marche pas si on regarde ça uniquement sous l'angle du coût. Alors oui, ça peut faire gagner 30%, mais s'il n'y a pas de l'accompagnement, si les agents ne sont pas accompagnés et formés par rapport à cette numérisation-là, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la numérisation, elle doit servir justement à ce que ces agents, que ce soit dans la justice ou dans la police ou ailleurs, aient plus de temps pour ne pas faire des tâches répétitives et plus être en contact du public. Donc évidemment, la formation, elle est première, c'est pas l'outil. La tablette en tant que telle, oui, c'est un outil, mais comme si on donnait un marteau, mais qu'on n'expliquait pas comment ça fonctionne. Donc là, il y a vraiment tout un suivi qui doit être fait pour vraiment associer. On l'a vu notamment sur la poste. Je trouve que c'est un exemple intéressant par rapport à un service public qui s'est modifié, qui fait qu'aujourd'hui on fait de l'accueil à la poste pour justement diriger les gens sur un ordinateur à Pôle emploi, à la caisse d'assurance maladie.
Vous avez vu ça quelque part? C'est comme ça à Avignon, chez vous?
Ça commence à arriver à Avignon. Mais
moi j'ai pas vu ça.
C'est beaucoup ça en Gironde. Il y en a aussi.
Vu des bureaux de poste qui ferment.
Et puis souvent la queue. Pour pas qu'ils ferment, justement, la numérisation des services publics empêche qu'ils ferment dans la ruralité. On est désolé, il y a moins de courriers qu'avant. Par contre, les bureaux de poste.
Il y a des colis. Il faut arrêter avec cet argument. Il y a des colis quand même. On est juste. Justement, en 2018.
Hugo Bernalicis, sur ces sujets, il y a évidemment un lien aussi avec la justice. Et là, on a tout un développement parallèle. Nouveau portail de la justice à destination des citoyens et des magistrats, ça va être justice.fr. La question du bracelet numérique, etc. Comment est-ce que vous réagissez à ces différentes questions là? Le numérique appliqué à la justice.
Là, ici, dans ce domaine, encore une fois, les personnes qui travaillent au ministère de la Justice, quelle que soit leur fonction, et je pense notamment aux magistrats, sont demandeurs de passer en 2018. c'est-à-dire d'avoir, ne serait-ce que des choses de base, du matériel qui fonctionne. Des choses matérielles, via un ordinateur qui fonctionne, qui rame pas, qui souffle pas en 3 heures. Je voyais dans les revendications des magistrats d'avoir des doubles écrans, parce que pour suivre à la fois une procédure et puis des éléments de preuve qu'on ouvre sur deux écrans différents, c'est quand même plutôt appréciable. Moi, dans le service où j'étais au ministère de l'Intérieur, pour faire la comptabilité, on avait deux écrans. Bon, alors pourquoi un magistrat n'aurait pas deux écrans? Donc déjà, commençons par le début, quoi, avant de se mettre la barre extrêmement haute. Et puis, s'il s'agit de vouloir encore une fois gagner du temps et d'avoir
le portail, le bracelet,
un dossier unique sur justice.fr, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux, mais attention, il faut regarder aussi ce qui se cache derrière les algorithmes, justement. Si c'est pour aller vers de la justice prédictive ou de la décision automatisée, là, ce sera hors de question pour la France insoumise et pour beaucoup de magistrats.
Mais pour tout le monde, il n'y aura pas de minority report dans ce pays.
C'est pas si évident que ça. Ce qui est dans les chantiers de la justice qu'a proposé la ministre de la Justice, c'est pas si évident que ça.
Prenons un exemple. Jean-François Césarini. Ils ont fait un exemple au MIT, c'est-à-dire qu'ils ont mis des contrats juridiques et des grands juristes en face et de l'intelligence artificielle en disant quels sont ces contrats qui sont cohérents, est-ce que c'est des bons contrats, est-ce qu'ils tiennent debout, est-ce qu'ils tiennent pas debout, est-ce que juridiquement ça tient debout. L'humain a perdu, mais très très largement, la machine a bien vu que les beaucoup plus vite lesquels étaient bons et lesquels étaient faux, et la conclusion c'est que finalement l'humain ne disparaît pas, ça lui permet de trier plus vite et de voir justement, plutôt que de perdre du temps, quel contrat est bon, quel contrat est mauvais, pour passer à un travail beaucoup plus pointu, beaucoup plus humain, beaucoup plus précis. C'est pour ça qu'aujourd'hui la numérisation de la justice, c'est pas la fin des tribunaux d'instance, c'est la fin des greffières qui s'embêtent à faire 25 fois la même convocation, mais qui pourraient là accueillir autrement et travailler autrement. C'est comme ça, c'est-à-dire que le numérique, encore une fois, c'est ni bon ni mauvais. Moi, je suis pas là pour dire que ça va résoudre tous nos problèmes. Je suis pas là pour dire non plus que c'est un mal en soi.
C'est pourtant la ligne de La République en Marche.
Non, c'est un outil. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil. Bah, par exemple, je sais pas, si on parle du logiciel Louvois militaire, bah, c'est quoi? C'est des appels à projets. C'est des gens qui sont derrière. C'est des gens qui ont codé.
Et ça a pas marché.
Mais non, parce que c'est pas la faute du numérique. C'est les humains qui l'ont mal fait, tout simplement. Oui, c'est un outil.
Mais souvent, on passe par le privé quand même pour faire ces logiciels.
En l'occurrence, chez les militaires, on a enlevé le privé pour que ce soit les militaires qui le fassent, et c'est pour ça que ça a bugué. Et aujourd'hui, on fait alors, venir les privés pour que dans un an ça marche. Les faits. Après, moi, je suis pas pro privé ni pro public. Je suis service au public.
Là, on parlait de Louvois, ce fameux logiciel qui empêche finalement les militaires de recevoir leur salaire normalement, puisqu'il a bugué et paraît-il va bugger encore pendant plusieurs années parce qu'on a du mal à le réparer. Mais revenons à la police et à la gendarmerie et notamment au ministère de l'Intérieur. Quand on va dans un commissariat, quand on regarde ce qui se passe, on est frappé aujourd'hui, évidemment, à cause de compte tenu du grand nombre de questions qui sont liées à des appels téléphoniques, qui sont liées à Internet, etc. C'est une police scientifique qui est aujourd'hui une police numérique qui a accès, et fort heureusement d'ailleurs, à un grand nombre de données, y compris les historiques de téléphone, d'emails, etc. Des particuliers lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un délit et un crime, évidemment. Comment est-ce que vous voyez cette évolution, au fond, du big data qui arrive dans la police, Hugo Bernalicis?
Ben aujourd'hui, c'est clair que c'est un moyen de résoudre des enquêtes, mais il faut que ça reste utilisé avec un encadrement très strict. Il s'agit pas de pouvoir
accéder. Généralement, ça l'est par la justice, hein, mais.
Par la justice, et puis aussi pas toujours par la justice, parce qu'il y a des enquêtes dites administratives qui sont pas encadrées par la justice, mais par la commission, par une commission nationale qui encadre ça. Et je pense qu'elle fait correctement son travail. Mais le législateur a quand même ouvert les données largement, y compris les données privées, par un certain nombre de lois, notamment les lois en matière de lutte contre le terrorisme. Donc moi, je m'y suis opposé parce que je pense que ça va trop loin à un moment donné. N'empêche que ces données-là, elles peuvent être utiles. Et pour ce qui est de la police technique et scientifique, il est clair que le numérique aujourd'hui est un outil merveilleux. Ils viennent de développer en interne à la police technique et scientifique un nouveau logiciel qui vient de sortir. Et il est très bien ce logiciel parce qu'il a été fait et piloté par un technicien lui-même. Alors aidé par des personnes qui savaient programmer, etc. Et on voit que du coup le logiciel répond à leurs besoins, aux besoins de terrain. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner quand on fait des logiciels. C'est d'où ma remarque tout à l'heure sur le privé, parce qu'on a toujours tendance à mettre des personnes de l'extérieur qui ne savent pas mieux que les gens de terrain comment ça doit fonctionner.
Pour terminer, un dernier mot sur cette question, Jean-François Césarini.
Effectivement, sur le big data et dans la justice, il y a deux choses. C'est qu'à la fois, la police scientifique vient pour des délits qui sont des délits, j'allais dire, traditionnels, physiques, matériels, où le numérique va aider, mais il y a aussi toute la cybercriminalité qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi tout un travail à faire là. C'est-à-dire que bientôt, le dealer au coin de la rue sera peut-être plus au coin de la rue, mais simplement il vendra dans le darknet et ce sera beaucoup plus facile d'y aller. Donc il y a quelque chose qui est... C'est-à-dire que là aussi, la délinquance est en train de se numériser et le grand banditisme depuis un petit moment. Donc il faut que notre justice, elle aille plutôt vers là. Donc bien sûr que c'est très important. Ça n'empêche pas la protection des données personnelles. J'étais d'ailleurs assez triste que malgré qu'on ait accepté quelques amendements de la France Insoumise, vous n'ayez pas voté cette loi sur la protection des données personnelles. Je pense qu'il y avait des...
Non,
mais elle n'est pas assez loin. Elle n'est vraiment pas assez loin, concrètement.
Bien. Eh bien, on en restait là pour ce soir. Merci infiniment à tous les deux. Deux députés ce soir qui n'étaient pas totalement d'accord, mais qui n'étaient pas toujours en désaccord, ce qui prouve qu'on est capable de débattre. Jean-François Césariné, député La République En Marche. Hugo Bernal-Lissis, député La France Insoumise.